rebonjour. Jésus, après la résurrection, quand il a trouvé ses disciples planqués dans une maison, il se cachait, la porte était fermée, il est entré et il leur a dit que la paix soit sur vous. Et j'aimerais que ce soit une réalité pour le monde arabe quand il répète assez régulièrement « Salam amou alaikum » que la paix de Dieu soit sur vous. On le dit, il faudrait que ce soit une réalité. Ça n'a pas dû être facile et c'est loin de l'être encore pour le monde arabe, ce qui se passe en ce moment. Même pour nous, nord-africains, chrétiens, assis sur deux chaises, entre guillemets, tirés, poussés d'un côté et de l'autre. Et le monde veut nous entraîner d'un côté ou le monde veut nous entraîner de l'autre à faire des choix, à prendre des positions. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas ma place. Je le dis, je ne suis pas Charlie, je suis tard, maghrébin. Je suis contre tout ce qui s'est passé, toute cette violence, toute cette haine, tous ces mots blessants. On ne récolte que le fruit de ce qui est semé. Merci Manu pour ta présidence, parce qu'elle est aussi au cœur même de mon sujet d'aujourd'hui. Cette relation entre un homme et son Dieu. Cette relation intime, profonde, vraie, véridique, sincère, des mots directs, fais pas de détour. Job dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Dieu l'écoute et Dieu finit par lui répondre. C'est vrai, c'est coutume chez les Juifs que quand tu lui poses une question, il te répond par une question. Quand on pose une question à Jésus, il répondait des fois par une question. Ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on puisse être aussi des Job. Et d'avoir cette relation intime avec notre Dieu, cette relation vraie, surtout dans cette période. On regarde encore un peu de loin, on se sent encore en sécurité, entre guillemets. Quand j'y discutais avec José, je disais, si on nous annonçait du jour au lendemain que Boko Haram était à nos portes, on se rassemblerait tous ici, on se mettrait à genoux et on commencerait à prier. Le sujet dont je vais vous parler ce matin, je vous en ai déjà parlé la dernière fois que je suis intervenu, c'est la prière. Je ne me lasserai pas de vous en parler. Et comme je le disais dans mon dernier message, quand j'ai parlé de la prière, j'ai dit, c'est tellement vaste, c'est tellement important, vital, primordial. On est appelé à prier. On est appelé à être des hommes et des femmes de prière. De prier. Et je dirais presque même, comme je disais à José, je disais, presque, c'est ce qui nous reste, la prière. C'est ce qui nous reste. La prière, et aussi, il nous faut l'amour. Il faut que je prie pour ceux qui sont victimes, mais il faut que je prie aussi pour leurs ennemis. Il faut qu'on prie pour le monde, pour cette situation où ça embrase plusieurs pays. J'étais étonné parce que même l'Algérie aussi s'y est mis, et comme Paul nous le rappelait dans sa prière, de prier pour les autorités et nos familles, nos parents, nos amis, nos voisins. On devrait avoir une vie de prière. Un homme a dit ceci un jour, il a dit, j'ai découvert que la persévérance est une des facultés spirituelles les plus importantes de la vie chrétienne. La persévérance. On en a besoin, la persévérance. De persévérer. On fait vite à se relâcher, on fait vite à baisser les bras, surtout quand on ne voit pas les choses arriver, ou surtout quand on voit que les choses empirent quelquefois. Il a même dit, c'est la persévérance qui a permis à l'escargot d'atteindre l'arche de Noé. La persévérance. Le manque d'endurance est l'une des principales causes d'échec, particulièrement dans la prière. Nous ne savons pas attendre. On va plus utiliser le micro-ondes, c'est plus rapide. Mais Dieu, lui, il aime bien faire mariner les choses, il aime bien les faire mijoter. Je vais vous lire juste un verset, parce que ce verset, pour moi, il englobe tellement de choses. Luc, chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. C'est un très bon conseil que Dieu nous donne ce matin. C'est toujours prier, ne pas se relâcher. C'est en priant qu'on apprend à prier. Moi, c'est dans les réunions de prière que j'ai appris à prier, j'écoutais les autres. D'où l'importance que quand on ouvre la bouche, comme disait Emmanuel tout à l'heure, quand on prie dans une église, dans un lieu, dans une réunion de prière, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous pouvez apporter aux autres. Et moi, j'ai beaucoup appris en écoutant les autres. Et j'ai compris comment on s'adresse à Dieu. Ça, c'est une chose. Et souvent, les personnes disent dans leur prière des choses qui touchent ma propre vie, sans qu'ils le sachent. Quand on a à cœur de prier, on peut prier dans son cœur, on peut prier dans son cœur. Quand vous avez dans le cœur quelque chose, laissez-le sortir par la bouche. Vous pouvez faire du bien à quelqu'un autour de vous. Prier, c'est envahir le monde du Dieu de l'impossible. C'est rentrer dans son univers. Prier dans son sens, dans un vrai sens, est l'acte le plus intense de la vie chrétienne. C'est se retrouver dans la présence de Dieu et pas ailleurs. Prier, c'est se retrouver dans la présence de Dieu. On a un super, extraordinaire, magnifique privilège, c'est de pouvoir avoir accès, comme Job, à la présence de Dieu. La porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte. On a vraiment un privilège extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait de ce trésor, de ce denier, de cette pièce qu'on a reçue? Qu'est-ce qu'on en fait? J'espère et je souhaite de tout mon cœur qu'en sortant d'ici, preniez peut-être une résolution, quelque chose. Vous vous disiez, je vais prendre 5-10 minutes et je vais prier en rentrant à la maison. Je vais prier parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est pas simple. Ça peut prêter à confusion. On peut être influencé d'un côté comme d'un autre. Prier, c'est s'adresser au Tout-Puissant, celui que le chrétien connaît. Il le connaît comme un père. On a chanté, Papa, Père, c'est notre Père. C'est extraordinaire. Je viens dans sa présence, il m'accueille comme un fils, comme sa fille. Il est mon Père. Et quel est le Père qui n'écoute pas son enfant? Satan, lui, est un combattant obstiné. Si sa persévérance à lui survit à celle de celui qui prie, alors il a gagné. Il existe dans le monde aujourd'hui des sectes sataniques qui se réunissent pour prier. Dans l'islam, les musulmans prient 5 fois par jour. Et la première prière commence à 5 heures le matin. La prière est aussi la plus grande chose que nous pouvons faire, que nous pouvons offrir à notre prochain. La prière. Ça vous est déjà arrivé, un collègue vous raconte un souci, un problème? Mais écoute, je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux prier pour toi. C'est en priant qu'on rencontre Dieu et qu'on le sent, qu'on sent sa présence merveilleuse. Dans la prière, le plus important, c'est la volonté de Dieu et le but qu'il y a derrière. Ce n'est pas pour accomplir nos propres désirs. Ce qui est bien aussi dans la prière, c'est la faculté qu'elle a de nous changer. Vous savez, dans la prière, on peut changer. Peut venir avec une pensée, une attitude, un regard qui n'est pas forcément le bon. Mais dans la présence du Seigneur, ça peut changer. Job, il a grandi dans ce temps-là. Il a appris beaucoup de choses. Son regard a changé. Il a été rempli d'humilité. Notre Dieu est bon. Il est plein d'amour. Qu'il nous aide à comprendre et à accepter sa volonté. La prière et la patience. La prière et l'obéissance. Deux choses inséparables. Comme deux sœurs siamois. Il est important que lorsqu'on s'approche de Dieu, comme Job, on s'approche avec un cœur sincère, avec honnêteté devant lui. Ça vaut bien plus que des paroles. On lui laisse le temps de nous répondre et il nous répondra en son temps. Nos paroles sont rien par rapport à notre honnêteté, à notre cœur. C'est pas grand-chose. Dieu regarde au cœur, on le sait. La prière chasse la peur, elle la transforme en force et en pouvoir. On détient un pouvoir, entre guillemets. La prière fait bouger les choses. Le chrétien se renouvelle et grandit en force à travers la prière. Il se renouvelle, il grandit, il croît en force, il croît en force. Un peu comme cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Le chrétien est planté, enraciné. Il puise sa force à travers la prière. Il se ressource à travers la prière. Sa vie se transforme, sa vie change Et forcément, il change tout ce qu'il y a autour de lui, forcément. Et si nous ne le voyons pas, des fois c'est les autres qui le voient. L'Église a un rôle important, primordial, dans l'éducation de ce monde. J'utilise un grand mot. C'est pas nous qui avons à apprendre du monde, mais c'est le monde qui a des choses à apprendre, ici, de nous. Et c'est pas facile, parce que quand les oreilles elles sont sourdes. Nous avons un rôle primordial, celui de les ramener sur le « droit chemin », entre guillemets. Pour mettre en pratique ces temps de prière, nous avons à la fois des groupes de prière. Et ce matin, par exemple, c'était spontané, c'était pas calculé. José m'appelle, me dit « Viens, on va prier ». J'encourage José à continuer, mais que ça puisse nous inspirer à chacun d'avoir cette spontanéité de prier, parce qu'on sait que sans lui, rien. On a besoin d'être inspiré par lui, d'être conduit par lui. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Des fois, il vaut mieux rester 10 ans à la même place et d'attendre d'avoir des directives que de courir à droite, à gauche. Le but de ces prières, de ces temps de prière, qu'ils soient personnels, qu'ils soient chez soi, qu'ils soient en groupe, dans l'église, avec chez d'autres, que de frères et sœurs se réunissent ensemble pour prier ensemble. Le but important, c'est déjà de prier pour les membres de l'église. Prier pour nos familles, prier pour le pays, prier pour la nation, prier pour les nations, prier pour l'église, prier pour le monde, prier pour pouvoir ensemble se soutenir les uns les autres, pour s'encourager, s'édifier, s'épauler entre frères et sœurs en Christ. Au début de ma conversion, quand j'entendais parler des groupes de prière en Corée, à Séoul, il y avait des groupes de prière, ils appelaient ça des montagnes de prière, des montagnes de prière. Ils se levaient à 3h, 4h du matin, ils allaient prier. Et ils enchaînaient comme ça les uns derrière les autres, ils s'organisaient pour que ça continue pour toute la journée. C'est pour ça qu'ils appelaient ça des montagnes de prière. La parole nous dit dans... Alors il y a Matthieu, il y a Jacques. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre, s'accordent pour demander quelque chose dans la prière, quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis, non pas Charlie, hein, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Le Seigneur, il n'est pas ailleurs. Hein. Il est important qu'à travers ces temps de prière, nous puissions à l'occasion confesser nos péchés les uns aux autres, pour qu'on puisse prier les uns pour les autres. C'est ainsi qu'on peut obtenir, par la grâce de Dieu, la guérison dans certaines situations, comme Dieu le permet. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna la pluie, la terre produit sa récolte. La prière est l'expansion. La prière, c'est le bras de la foi. La prière est l'expansion normale de la foi par laquelle nous acceptons le salut. Car comme déclare l'Écriture, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça va jusque-là ? Tout va bien ? Et on a une conception, et le monde a une conception de Dieu un peu déformée, dans le monde religieux aussi. Même parmi les chrétiens, des fois, on a une conception de Dieu qui n'est pas forcément la bonne. Parfois, on considère Dieu comme un patron, et nous, on est les ouvriers. On lui donne un certain travail, Dieu fait ceci, Dieu fait ça. Et après, on a la récompense, le salaire, donnant, donnant. Parfois, on considère Dieu comme une force impersonnelle, qui est loin, qui est indéfinissable, un Dieu avec lequel on ne pourra jamais avoir une relation intime. Dans l'islam, c'est un peu ce qui se passe. S'imaginer d'avoir nos relations intimes avec Dieu, Dieu est trop lointain, Dieu est trop puissant, Dieu est trop saint, il est inaccessible, inatteignable. Ou encore, on peut aussi, ça m'est arrivé, de voir Dieu comme un père exigeant. Exigeant. Oh, si je ne fais pas ça, là, il ne va pas être content. Oh, si je ne fais pas comme ça, ça va mal se passer. Ah, là, là. Oh, là, là, excuse-moi, je vais faire de mon mieux. Ou alors, on voit Dieu, notre Père, comme le Père Noël. Un Dieu utile, à notre service, avec une vie de prière qui se limite à des demandes. On vient, on arrive devant Dieu avec sa liste, sans dialogue, sans relation, juste un monologue. Et le jour où je me suis converti, on m'avait souvent répété ce passage de l'Écriture dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Souper ? Alors c'est bien plus qu'une relation, ça. C'est vraiment convivial, quoi. C'est extraordinaire. Le Seigneur va souper avec moi. Mais il va souper quand ? Le jour seulement où j'ouvrirai la porte ? Ou tous les jours de ma vie ? On est censé souper ensemble. Question. Est-ce que ça, ce temps, ce moment où j'ai ouvert la porte, on a fait juste un souper, c'est bon, ciao, au revoir, on se voit de temps en temps, à l'occasion, on se fait une bouffe, non ? C'était pour tous les jours de ma vie, ce souper. Tous les jours, on doit souper ensemble. Tous les jours, on doit avoir ce temps, normalement. Ça devrait être tous les jours. Non, Dieu n'est pas un père pour nous comme... Je reprends ma phrase. Non, Dieu n'est pas comme nous. Monologue et tout ça. Dieu est un père pour nous, comme il l'a été pour le Christ. Nous devons toujours prendre en considération notre vie de prière. J'aime beaucoup le titre de ce prospectus, là. La chambre haute. C'est un moment extraordinaire dans la vie des disciples. C'est un lieu où ils se sont rassemblés. Il s'est passé des choses extraordinaires à ce moment-là. Ils ont prié. Nous devons toujours prendre en considération notre vie de prière. Qu'est-ce que ma vie de prière ? Qu'est-ce qu'elle révèle ? Que révèle-t-elle de ma manière de percevoir Dieu ? Comment je perçois Dieu à travers ma vie de prière ? Pour approfondir notre communion avec lui, il devrait y avoir une relation, un vrai dialogue, une communion entre Dieu et celui qui prie, entre nous et lui. C'est ça, la prière. Il y a deux risques parfois, deux risques majeurs, quand parfois Dieu reste en silence. Il y a eu des silences, des temps de silence dans l'histoire de Job, mais ça n'a pas été la conclusion. Dans ce silence, soit on culpabilise en doutant de nous-mêmes, peut-être quelque chose que j'ai mal fait, peut-être que j'ai un péché, peut-être ceci. On commence à culpabiliser, on se trouve dans un état parfois pitoyable. Soit on culpabilise Dieu en doutant de lui, de ses capacités, de son pouvoir, de son amour, quoi. Dieu a son propre plan, heureusement. Il a son plan pour toute chose. Nous avons notre désir, notre souhait. Mais Dieu a aussi son propre plan. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun à ce que vous pensez, à ce que nous pensons. Notre façon d'agir n'a rien de commun avec la façon de Dieu d'agir. Jésus en a rencontré des silences aussi de la part de son Père. Dans le jardin de Gethsémané, mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il était seul. Silence. Pas de réponse. Pourtant, quand il disait à Lazare, sors, aussitôt, la gloire de Dieu. Il disait à ce mort, allez, lève-toi. Il disait à cette personne, allez, t'es guéri. Il y avait un retour. Mais là, il est seul. Tout seul, face à la croix. Et encore sur la croix, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné tout seul ? Silence, le silence de Dieu. Dieu répond dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. Il prend le temps. Parfois, ce n'est pas encore le temps pour Dieu de donner sa réponse. Alors, il faut encore attendre, patiemment, dans l'amour, dans la paix. Car Dieu fait un véritable travail dans notre vie, pour notre bien. Et c'est souvent dans ces temps-là qu'on attend que ça travaille le plus. Le processus d'attente n'est jamais inutile ni stérile. Cette période d'attente pourrait même nous être très productive. Ce que Dieu fait pour nous est aussi important que ce que nous attendons. Ce que Dieu fait pour nous est aussi important que ce que nous attendons, nous. Pour exemple, dans la bénédiction d'Abraham, relatée dans la Genèse, « Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. » Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Tes descendants seront innombrables comme elles. » Combien de temps a-t-il fallu à Abraham pour que ça, tout cela se réalise ? Il existe dans le monde spirituel une lutte entre le bien et le mal. Une vraie lutte qui se déroule dans le monde invisible. Ce sont de grandes forces spirituelles occultes, des forces qui essaient de contrer la volonté de Dieu, des forces qui se traduisent dans le monde présent par le matérialisme, le racisme, le militarisme, le nationalisme à outrance, la division dans les nations, la division dans les couples, la mésentente dans les familles, la désunion dans les églises, etc., etc., etc. Et la liste est longue. Par la prière, nous combattons le bon combat de la foi. Par la prière, nous combattons ces forces du mal en nous associant au plan de Dieu. Comme a dit l'apôtre Paul, « Nous avons voulu retourner chez vous. Moi, Paul, j'ai essayé à plusieurs reprises, plusieurs fois, de venir vous voir. Mais Satan nous en a empêchés dans le livre des Thessaloniciens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le Seigneur ne va pas demander au monde de lutter contre ça. Il ne peut que le demander qu'à son peuple. Il ne peut que s'adresser qu'à nous. Et je répète encore que le silence de Dieu n'est pas une impasse, c'est un chemin. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Veillant en elle avec des actions de grâce. Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous, parce que Dieu est sage. Il nous accorde ce qu'il y a de mieux pour nous, parce que Dieu est tout-puissant. Passons plus de temps dans la prière. Passons plus de temps à prier de tout notre cœur, de toute notre âme, car les prières contrecarrent les desseins de Satan et peuvent changer le cours de l'histoire. Nous avons un rôle à jouer. Merci Seigneur de la place que tu nous donnes dans ton plan, dans ton histoire. C'est vrai, le temps nous l'avons, en réfléchissant bien. Je m'en rends compte des fois. Des fois je vais passer presque trois quarts d'heure à nettoyer ma voiture. Je vais passer une heure à regarder ma série préférée. Voilà. Je vais passer une bonne demi-heure avec des amis pour aller boire un verre ensemble. Je crois que je n'ai pas d'excuses. Pour Jésus, notre maître, notre exemple, la prière a occupé une très grande place dans sa vie. Nous avons tous à apprendre de lui. Il aimait être seul, dans l'intimité avec son Père, pour prier. Il pouvait facilement même passer la nuit dans la communion avec son Père. Dans Matthieu, il nous dit ceci, et quand il leur eut donné congé, il monta sur une montagne pour être à l'écart afin de prier. Et le soir étant venu, il était là, seul. Dans Marc, puis au matin, comme il était encore fort nuit, s'étant levé, il sortit Il s'en alla en un lieu désert et il pria là. Il priait. Dans Luc, mais il se tenait retiré dans les déserts et il priait. Je crois que sans la prière, son ministère au Seigneur, il tomberait à l'eau. Et on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'avait pas prié. Encore dans Luc. Or, il arriva en ce jour-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier et qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est d'ailleurs en priant, et c'est avant le choix, celui de choisir ses disciples, Jésus a prié. Jésus a aussi encouragé ses disciples à prier. Pour Jésus, la prière était très importante et il encourageait ses disciples à faire de même. Sa vie de prière était un témoignage pour ses disciples à faire la même chose, à faire pareil. Ils lui ont même demandé « Comment on prie ? Montre-nous, dis-nous, on veut nous aussi. » Dans l'évangile de Luc, un jour que Jésus était en prière, en un certain lieu, après qu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » C'est là que le Seigneur a commencé sa prière sur le Notre Père. Dans l'évangile de Matthieu, « Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. » Lorsque nous prions, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu écoute. Que Dieu écoute notre prière. Si je me mets dans la prière et que je n'ai pas cette conviction que Dieu m'écoute, il vaut mieux que je me taise. Mais je dois avoir la conviction que Dieu m'écoute. L'un des fils d'Abraham s'appelait Ismaël. Ismaël, Ismar, Dieu entend. Nous avons l'exemple aussi des premiers chrétiens, nos pères, pères de l'Église. Après avoir vu la vie de prière de Jésus et ses encouragements pour que nous nous mettions à la prière, nous pouvons tirer la leçon de la vie des premiers croyants qui persévéraient d'un commun accord dans la prière. Ils étaient ensemble, solidaires dans la prière. Ils unissaient leurs voix et s'appliquaient à la prière. Tous persévéraient de commun accord dans la prière. Dans les Actes, il nous est rapporté aussi, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans la prière. Un autre passage du livre des Actes qui nous démontre l'importance de la prière dans la vie des croyants est celui de Paul et Silas qui étaient en prison, qui chantaient, qui priaient. Et en plus, ça a ouvert les portes des prisons. Et le geôlier qui était là s'est converti. Paul et Silas priaient et chantaient. Et les prisonniers les entendaient. Les encouragements de Paul aussi. Vous voyez comment ça se... Les boules de neige. Jésus, Paul, qui va imiter son Seigneur. Les encouragements de Paul aux croyants. Dans les lettres de Paul aux différentes églises, aux frères d'œuvre, Paul nous encourage à persévérer dans la prière. Dans Romains, il nous rappelle ceci. « Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction. » Persévérant dans la prière. Paul nous encourage à prier en tout temps, que nous soyons constamment dans la présence de Dieu, à faire connaître à Dieu nos pensées, nos besoins. Dans l'Épître aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans l'Épître aux Colossiens, persévérez dans la prière, « Veillez-y avec action de grâce. » Dans l'Épître aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse. » Dans l'Épître à Timothée, « J'exhorte donc qu'avant toute chose, on fasse des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pas facile aujourd'hui pour tous les hommes. Est-ce que je dois prier pour les hommes de Boko Haram ? C'est mon devoir. Faut que je prie pour eux. On a eu des Saül de Tarse, et on en a d'autres encore. Encore dans l'épître à Timothée, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation. » Après Paul, on a les encouragements de Pierre. Pour Pierre et les autres apôtres, la prière était importante et prioritaire. Elle passe avant tout, même avant le service du chrétien. Pour avoir un ministère efficace, il faut qu'avant toute chose, on ait remis ce ministère entre les mains du maître de la moisson. Dans les livres des Actes, et pour nous, nous continuerons de vaquer à la prière et à l'administration de la parole. Pierre nous rappelle que le Seigneur écoute les prières des justes. Il nous souligne également que nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Et qu'il nous faut persévérer et être vigilants dans la prière. Pierre toujours, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui se conduisent mal. Toujours Pierre, or la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et vigilants dans la prière. Et il dira, priez. Et après Pierre, c'est Jacques qui s'y met. C'est une contagion, c'est une contamination totale. Finalement, après Paul, Pierre, soulignons quelques paroles du frère de Jésus. Jacques, il nous encourage à prier lorsque nous sommes dans la souffrance. Trop souvent, dans de telles situations, nos cœurs sont portés à se lamenter, à se plaindre de notre sort. Au contraire, il faut faire connaître nos besoins à Dieu. Jacques nous dit encore ceci, « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? Qu'il prie ! Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques ?» Finalement, un élément important dans la vie du chrétien, aussi un des éléments importants avec la prière, c'est l'amour fraternel. C'est par cet amour que nous devons prier pour notre famille spirituelle en Christ. Prions les uns pour les autres. Jacques nous dit encore ceci, confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà donc quelques versets qui nous encouragent à persévérer dans la prière comme le Seigneur Jésus lui-même a fait et nous encourage à le faire. Retenons l'encouragement et l'exemple des premiers chrétiens qui, chaque jour, persévéraient dans la prière, eux. Retenons les exhortations de Paul, de Pierre, de Jacques, qui, à leur tour, nous poussent à prier sans cesse. Que Dieu nous permet à chacun d'être béni à travers la prière. Quand nous prions, nous sommes en bénédiction les uns des autres. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons. C'est là que s'arrête mon message. J'ai parlé de la prière, j'ai parlé aussi du Notre Père. Je crois que ce Notre Père, c'est ce qui devrait nous faciliter en plus la tâche. Vous vous rendez compte, avant, tout ce qu'il fallait faire pour s'approcher de Dieu. Il fallait tel costume, telle chose, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Avant d'entrer, c'est pas n'importe qui rentre, c'est pas n'importe qui lui parle. C'est... Nous, non seulement on peut, mais on l'appelle Notre Père. Et j'ai vu qu'il y avait un livre ici, d'une Pakistanaise d'origine musulmane, qui s'est convertie au Seigneur Jésus, après une guérison. Et elle écrit donc ce livre, et le titre de ce livre c'est « J'ai osé appeler Dieu Père ». Et je comprends ce qu'elle dit, parce que dans l'islam, Dieu Père, Dieu, Allah, c'est les saints, loin. J'ai osé appeler Dieu Père. On a un extraordinaire privilège, Père. Et je voudrais juste vous lire une petite histoire. Et à travers cette histoire, je voudrais faire un petit clin d'œil à Daniel, qui n'est pas là, ni à sa femme. Bien loin, au fond d'une forêt nord-américaine, 300 chefs indiens étaient rassemblés, très tôt le matin. Ils se sont mis en cercle autour d'un homme blanc, solitaire, un missionnaire. Un missionnaire qui leur parle de l'amour de Dieu. La semence est tombée dans une terre fertile. Ces hommes n'ont jamais entendu quelque chose de semblable. Lorsqu'il eut fini, plusieurs des chefs indiens lui ont posé des questions. Et le dernier à lui poser la question lui dit ceci. Le missionnaire nous dit qu'un homme s'est approché, l'un des indiens s'est approché. C'était un vieil homme à l'allure farouche, avec de longs cheveux broussaillés, et il semblait plutôt agité. Et cet homme, cet indien, s'est approché de lui et lui dit « Missionnaire, mes cheveux qui autrefois étaient aussi noirs que l'aigle d'un corbeau sont maintenant devenus blancs. Les cheveux gris de ma tête, eh bien les petits-enfants, quand ils viennent dans ma hutte, me racontent que je suis devenu vieux et qu'il ne me reste plus longtemps à vivre. Cependant, je n'ai jamais entendu quelque chose de comparable à ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Mais, missionnaire, lorsqu'il y a quelques instants, tu as parlé au grand esprit, je t'ai entendu dire « Père, notre Père ». « Oui, » répondit le missionnaire. « J'ai dit notre Père qui est aux cieux. » « Ceci est tout à fait nouveau et très réjouissant pour nous. » Le vieux chef, les larmes aux yeux, « Nous n'avons jamais pensé au grand esprit en tant que notre Père. Nous l'entendions dans le tonnerre, nous le voyons dans l'éclair, dans le vent, dans la tempête de neige, et nous avions peur. Alors, quand tu viens nous dire que le grand esprit est notre Père, c'est extrêmement réjouissant pour nous. Hey, missionnaire, n'as-tu pas dit « Le grand esprit est ton père ?»« Oui, c'est exact. »« Et il est le père des Indiens ?»« Parfaitement, c'est exact. »« Alors, nous sommes frères ?» s'exclama le vieil Indien. Le missionnaire ajoute que l'enthousiasme de toute l'assemblée fut si grand qu'en être témoin fut une expérience extraordinaire, inoubliable. Et tous, d'une seule voix, le prièrent instamment de rester auprès d'eux pour leur expliquer davantage cette bonne nouvelle. Dieu est notre Père. Approchons-nous de lui sans modération. Je vais juste vous relire le premier verset que je lis au début. Et je conclue avec ça. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.